Le thème, c'est inviter. Inviter comme première étape de notre projet d'Église. Et pour réfléchir à ce sujet, je vous propose de lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10. Et on commence au verset 25. Un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais il voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un Lévi arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui ». Et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé aux mains des bandits ? Il répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Quel rapport peut-il y avoir entre la parabole du bon samaritain et le verbe inviter ? L'invitation que nous voulons vivre. Si vous avez été attentif la semaine dernière, si vous avez suivi la prédication, vous vous souvenez peut-être que du schéma avec les cercles. Et vous avez peut-être remarqué que l'invitation que nous voulons la faire auprès des gens qui sont dans notre proximité, c'est-à-dire nos prochains. Changer les couleurs, on ne voit pas très bien. Inviter mon prochain. Mais qui est mon prochain ? Qui est mon prochain ? C'est justement la question à laquelle répond Jésus dans la parabole que nous avons lue. Qui est mon prochain ? Dans quel contexte est-ce que Jésus répond à cette question ? On a un spécialiste de la loi qui vient l'interroger pour lui poser un piège. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? C'est marrant cette question, j'ai l'impression de vous l'avoir déjà posée. La dernière fois que j'ai prêché, c'était un jeune homme riche qui posait la même question à Jésus. Lorsque je suis devenu pasteur, j'ai été étonné de rencontrer des personnes qui me posaient la question « Qu'est-ce qu'il faut faire dans votre religion ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ça m'a vraiment étonné parce que je ne m'étais jamais posé la question comme ça. Et pourtant, lequel d'entre nous ne serait pas rassuré s'il savait que pour plaire à Dieu, il fallait faire telle et telle chose et puis qu'ensuite, c'est bon, je suis en règle. J'ai fini mon travail, je fais ce que je veux. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que faut-il faire dans votre religion? Que faut-il faire pour vivre le projet d'Église? Que faut-il faire pour inviter? Que faut-il faire? Mais Jésus, quand on lui pose ce genre de questions, eh bien, il répond toujours à côté. Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu comprends? Cherche toi-même et trouve toi-même. Et il a raison parce que le spécialiste de la loi en question, il le sait. Et il est même capable de résumer la loi magnifiquement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé que dresse le spécialiste de la loi. Résumé qui ne se trouve pas dans la Bible, hein. C'est lui qui, avec sa compréhension, le résume comme ça, et Jésus applaudit. Tu as raison. Mais, on l'a lu, hein, Luc nous a dévoilé les intentions de ce spécialiste de la loi, il y avait un piège derrière. Et le spécialiste de la loi ne veut pas en rester là. Il lui pose une question vraiment intéressante. Qui est mon prochain? Cette question, elle est vraiment intéressante parce qu'on pourrait nous aussi se la poser. En fait, qui est-ce que je dois aimer? Qui c'est mon prochain? Jusqu'où il est ce cercle de personnes que tu me demandes d'aimer, Jésus? Elle est où la limite? Parce qu'aimer tout le monde, c'est pas possible. C'est comme aimer personne. Trop flou, trop vague. Elle est où, limite? À cette question intéressante, Jésus va répondre de manière indirecte en racontant une petite histoire, une parabole. Et il est facile de transposer cette parabole aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, en 2017, dans notre quartier, tiens. Un homme passe le dimanche matin, un peu tôt, il se fait agresser, deux gars le menacent, lui piquent son portefeuille, et au moment de partir, pour ne pas être poursuivi, il l'assomme. Ça se passe là derrière, rue d'Aguesseau, à l'angle à côté du théâtre. Et le premier qui passe, ce matin-là, c'est le pasteur de l'église. J'essaye de me mettre à sa place. Peut-être il est pressé, il a la réunion de prière qui commence dans 2 minutes, c'est lui qui l'anime, et là il est limite. Puis ce gars-là qui est étendu par terre, peut-être qu'il est étendu par terre parce qu'il a trop fait la fête hier. Et puis d'autres passeront certainement, peut-être, dans la rue. Il continue. Et effectivement, il y en a d'autres qui passent. Des membres de l'église d'à côté. Un tel qui se dépêche parce que ce matin il est d'accueil. Un tel autre qui est parce qu'il fait la musique ou parce qu'il est de sono. Une telle qui se dépêche parce que ce matin, elle s'occupe des enfants et doit préparer la salle et le fêter. Personne ne s'arrête. Détendez-vous, c'est une parabole. C'est une fiction, cela n'arriverait jamais en vrai. Et pourtant, c'est bien ce que Jésus propose, ce à quoi il confronte son auditeur, un prêtre, un lévite qui ne s'arrête pas. Des gens bien consacrés. Mais le plus choquant reste à venir. En effet, celui qui s'arrête, c'est un Samaritain. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'un Samaritain. Pour nous, lecteurs du 21e siècle, un Samaritain, on ne sait pas trop ce que c'est. Si on lit la Bible, on connaît la parabole du bon samaritain qu'on vient de lire et on sait et on se dit qu'un samaritain, c'est quelqu'un de plutôt sympa. Mais pour l'auditoire de Jésus, là, à ce moment-là, le samaritain, c'est pire que tout. C'est pire que tout, c'est pire qu'un païen. Parce qu'un païen, il a une excuse. Il n'a jamais entendu parler de Dieu. Mais le samaritain, il connaît Dieu. Il connaît la loi. Il connaît la révélation divine. Et pourtant, il n'adore pas comme il faut. Au lieu de se tourner vers Jérusalem, vers le temple de Dieu, vers la cité de Dieu, il s'est fait un endroit où prier à part et il mêle des pratiques idolâtres à ses pratiques. Encore une fois, c'est pire que tout. Ceux qui font ça sans être au courant, ils ont l'excuse de ne pas être au courant, mais lui, il est au courant. Et qui pourrait être un tel homme pour nous aujourd'hui? J'ai entendu un prédicateur parler de ce texte et avoir une suggestion qui me semble assez juste. Ce prédicateur suggérait que ça pourrait être un musulman. Un musulman qui, comme nous, adore Dieu, le Dieu unique, l'éternel. Quelqu'un qui connaît Jésus, pour qui c'est un très grand prophète. Mais qui n'écoute pas l'enseignement des évangiles. Il dit que les évangiles sont une déformation et qui a une autre pratique. Et s'il fallait voir dans ce samaritain d'aujourd'hui un musulman, ce ne serait pas le musulman sympa qui a ses enfants dans la même école que vous, avec qui vous pouvez discuter facilement, le musulman laïque, ouvert, abordable. Ce sera certainement celui qui est barbu, dont la femme est voilée, celui vers qui je n'ose pas aller, celui qui m'inquiète quand je le croise dans la rue. Et voilà. Voilà l'histoire de Jésus, c'est cet homme, celui vers qui je n'irai pas naturellement. C'est lui qui se sent concerné par cet homme assommé sur le trottoir. Peut-être que les autres, en le voyant, étaient émus aussi. Mais lui, il s'arrête. Il va voir. Quand il voit qu'il y a besoin de lui, il passe à l'action. Il prend le temps de le faire. Il donne son temps, mais aussi son argent, pour s'occuper de lui. Parce que c'est ça dont cet homme blessé a besoin à ce moment-là. Voilà l'histoire. Alors, lequel de ces trois hommes a été le prochain de l'homme agressé rue d'Aguesseau? Lequel a été le prochain, cher spécialiste de la loi, de l'homme tombé aux mains des bandits sur cette route qui va à Jéricho? La réponse est évidente. Même le spécialiste de la loi, qui voulait donner un piège, qui voulait tendre un piège, trouve la réponse. C'est celui qui a montré de la compassion pour le blessé. Voilà. Voilà la parabole du Samaritain, du bon Samaritain, que Jésus pose ce jour-là, et qui, je crois, jette un froid dans l'auditoire. Quelle est la morale de cette parabole? Nous avons été interpellés, mais comment la comprendre? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus n'a pas répondu à la question « Qui est mon prochain ?» Il a dit « Va et fais de même ». La morale de cette parabole, ce n'est pas « Tous les religieux sont des hypocrites ». pourrait le penser, les deux qui ne s'arrêtent pas, ce sont des religieux. Mais Jésus n'est pas en train de les stigmatiser. S'il les prend, s'il les montre comme exemple, s'il montre l'échec d'un prêtre et d'un lévite, je crois que c'est pour montrer qu'être proche de Dieu, observer les règles, ne garantit pas de faire ce qui plaît à Dieu. Là, il a pris la crème, un prêtre, un lévite. Mais certainement que Jésus a voulu faire court, il aurait pu continuer son histoire avant de faire apparaître le Samaritain. Il aurait pu prendre un juif pieux, un juif normal. Il aurait pu faire passer aussi un collecteur d'impôts, comme ça, hein, on descend dans l'échelle de valeur. Et personne ne s'arrête. Celui qui s'arrête, c'est le Samaritain. Si Jésus montre un Samaritain comme ça, s'il le met en scène, c'est pour montrer qu'arriver à aimer son prochain, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe qui, pour peu qu'on se laisse interpeller, qu'on accepte de prendre son temps. Alors, quelle est la morale de la parabole? Ce n'est pas non plus « tu dois aimer tout le monde ». Parce que aimer tout le monde, ce n'est pas possible. Ce n'est pas réaliste. Jésus lui-même n'a pas pu aimer tout le monde. Aimer, montrer de la compassion, s'arrêter pour s'occuper de la personne, Jésus n'a pas pu le faire. Il a dû renvoyer les foules, limitées par ses forces humaines. Il n'a pas pu traiter toute la misère du monde qui arrivait à lui tout le temps. Aimer tout le monde, c'est une formule, c'est un vœu pieux, ce n'est pas quelque chose de réaliste, ce n'est pas quelque chose d'humain. S'il fallait résumer la morale de cette parabole, je dirais plutôt « tu dois aimer n'importe qui ». Ton prochain, celui que tu dois aimer, c'est celui que tu croises, qui se trouve à côté de toi, celui que le Seigneur place à côté de toi, sans critère, n'importe qui. Ça peut être, c'est les membres de ta famille, on le dit, sa famille, on ne la choisit pas. Tes collègues, tes voisins, ceux que tu croises également au détour de ton chemin, dans la rue, voilà qui est ton prochain. Celui qui est proche de toi, sans regarder à son pédigré. Et ce que dit Jésus à ce spécialiste de la loi, et ce qu'il nous dit aujourd'hui à travers l'évangile de Luc, aime celui que tu croises. Aime ton prochain. Aime n'importe qui. Invité, c'est de ça dont on parle ce matin. Vous avez peut-être une objection. Dans cette parabole, on parle d'aimer son prochain et pas de l'inviter. Vous n'avez pas tort. Mais ici, on parle d'aimer. Une question que le spécialiste de la loi ne pose pas, c'est au fond, c'est quoi aimer? Il avait sans doute son compte avec la dernière question qu'il avait posée, il n'avait pas envie d'en poser d'autres. Mais c'est quoi aimer? Jésus est venu montrer qu'est-ce que c'est qu'aimer, et il a dit le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Jésus a montré le plus grand amour lorsqu'il était sur terre. Il est venu pour se faire serviteur. Il a montré le chemin vers Dieu. Il a payé le prix pour ouvrir ce chemin. Oui, il a donné sa vie. C'est la plus grande preuve d'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Voilà ce que nous enseigne la Bible. Que Jésus a aimé et qu'il est allé chercher ceux qu'il aimait. Et elle nous enseigne aussi que ceux qui ne croient pas se perdent loin de Dieu. Mes amis, si nous aimons notre prochain, il va falloir à un moment lui donner la possibilité de croire. Il va falloir à un moment l'inviter dans ce mouvement qui nous approche de Jésus. Je ne suis pas en train de dire que tout l'amour du prochain se résume à la seule invitation à l'Église. Mais si nous croyons pouvoir aimer sans parler de Dieu, alors soit nous n'avons pas vraiment compris les enjeux que nous explique la Bible, nous n'avons pas compris, pas intégré, ou nous ne prenons pas au sérieux. Soit nous n'aimons pas vraiment les personnes qui sont autour de nous et qui se perdent. Parce que si nous voulons inviter, et qu'après inviter, nous voulons accueillir, puis baptiser, enseigner, envoyer, ce n'est pas juste pour voir notre Église grandir. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif final, c'est que plus de monde soit sauvé, que plus de monde ait la vie éternelle, que plus de monde vive dans l'amour de Dieu, s'en réjouisse, comme nous avons pu le faire pendant ce moment de louange, où nous sommes réjouis tous ensemble autour du chemin qu'est Jésus et qui est ouvert pour nous. Je crois qu'aimer notre prochain passe, entre autres, mais passe par l'invitation à s'approcher de Jésus. Inviter, donc. Inviter. Ça vaudra le coup de prendre le temps de définir de quoi il s'agit, de mettre de l'ordre dans nos idées. Et j'aimerais aborder trois points rapidement. Inviter qui? Inviter où? Et inviter comment? Et inviter qui, ça va aller très vite, puisque nous en avons déjà parlé. Il s'agit d'inviter mon prochain. C'est-à-dire inviter n'importe qui, sans restriction, mis en mouvement par l'amour de Dieu pour le monde. Inviter mon prochain. Inviter où? Quand on invite quelqu'un, c'est l'inviter quelque part. Ben, je crois que nous l'avons vu également. Si ce qui nous motive, c'est de faire connaître Dieu à travers l'œuvre de Jésus-Christ, c'est vers Jésus qu'il faut inviter. L'objectif final, ce n'est pas d'inviter à l'Église, ou d'inviter au culte ouvert, ou inviter à tel ou tel autre événement organisé. Ce n'est pas ça le but. Mais par contre, si on veut inviter pour Jésus, il me semble qu'inviter à l'Église est une bonne idée. Parce que nous croyons que l'Église, c'est Dieu lui-même qui l'a mise en place. C'est là qu'il veut que les chrétiens se rassemblent. Et lorsque nous mettons en place notre vie d'Église, eh bien, nous travaillons ensemble pour que ce lieu soit un lieu accueillant, un lieu où on peut utiliser les dons de chacun, les forces de chacun, donner la parole à des gens qui parlent bien, confier l'accueil à des gens qui ont le contact facile, proposer des programmes pour les enfants avec des gens qui sont à l'aise avec les enfants, etc., etc. Nous voulons organiser notre Église pour qu'elle soit un lieu efficace pour faire connaître Jésus. Il semble logique d'inviter dans ce lieu en particulier. Et c'est la même chose pour nos cultes ouverts. Nous y faisons un effort particulier lors de ces cultes, le deuxième dimanche de chaque mois, pour que le propos soit plus accessible, pour que le format soit léger, convienne à tous, pour qu'il y ait plus de convivialité. Ils sont faits pour nous aider à inviter, pour que si nous voulons inviter, ou plutôt quand nous voulons inviter, nous avons un outil, quelque part, où nous savons que les gens seront bien accueillis, bien pris en charge, et qu'on les montre, qu'ils verront Jésus, vers qui, ultimement, on invite. Inviter mon prochain, inviter vers Jésus, inviter comment ? On peut avoir une très grande créativité sur la façon d'inviter. On peut inviter de façon personnelle et puis de façon aussi organisée, institutionnelle. Nous avons un site web, on peut distribuer des plaquettes, des flyers, et il ne faut pas négliger ces moyens de faire. Mais en même temps, je me rends conscience que si on se cache derrière un site web ou une plaquette, on reste distant. Si nous voulons être une église invitante, il ne suffit pas d'avoir le plus beau des sites web de toutes les églises d'Auvergne, mais il faut que chacun d'entre nous, le plus grand nombre, aime dire à son prochain, va voir le site de mon église. Va voir, là-bas, il y a la prédication dont je t'ai parlé. Là-bas, il y a le témoignage que j'ai donné. Là-bas, il y a cet événement dont je t'ai parlé. Il va falloir se mouiller. Mais j'aimerais revenir vers notre parabole qui nous donne aussi des pistes sur comment inviter. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué en méditant ce texte, c'est que le Samaritain, il était disponible. Il s'est rendu disponible pour celui qui avait besoin de lui. Et je crois que si on veut inviter, il faut travailler à être disponible. Certes, il n'est pas écrit que la raison pour laquelle le prêtre et le lévite ne se sont pas arrêtés, c'est parce qu'ils avaient trop à faire, parce qu'ils étaient trop pressés. Mais en même temps, s'arrêter, comme l'a fait le Samaritain, c'est accepter de prendre du temps pour l'autre. Quelque part, de perdre de ce temps précieux que je pourrais consacrer à ce que j'ai prévu. Si nous voulons être une église invitante, il va falloir s'ouvrir aux autres. Remarquer qu'ils sont là, à côté de nous, partout où nous sommes. S'arrêter là où ils sont. Prendre le temps à la machine à café, au petit déjeuner, au coin de la rue, avec la voisine. S'arrêter là où ils sont, passer du temps avec eux. Développer une attitude où on a de la marge, où on est prêt à se laisser déranger. Quel programme dans notre société où on est tellement occupé, tellement sollicité, où au cas où on s'ennuie, on a des super téléphones qui nous proposent 1000 choses à faire, au cas où on pourrait perdre 30 secondes. Deuxième chose que je relève dans cette parabole, pour inviter, pour rejoindre l'autre, c'est que des fois, ce que mon prochain attend, ce n'est pas une invitation à venir à l'église. Quand il est sur le trottoir, à demi-mort, il y a peut-être d'autres choses qu'il attend. Peut-être d'autres besoins, mon prochain, des besoins immédiats, des besoins matériels, s'il est dans le dénuement, des besoins sociaux s'il est seul. Et si vous vous souvenez, Jésus, dans les évangiles, il n'a pas passé son temps à prêcher. Il a passé aussi beaucoup de temps à guérir et à faire du bien à ceux qui venaient le voir pour ça. Jésus a pris le temps de regarder ses contemporains et de voir ce dont ils avaient besoin. Et nous aussi, il faut peut-être également regarder nos contemporains, ce dont ils ont besoin, et leur offrir des réponses aux besoins que eux voient. Nous savons qu'ils ont besoin de connaître Jésus. Mais parfois, ce besoin, ils ne le voient pas. Ils voient des besoins immédiats sur lesquels peut-être nous pouvons aider. Il y a un défi pour nous. Un défi à relever en Église, celui de montrer l'amour de Dieu à nos contemporains, par nos actions et pas seulement par nos discours. Voilà. Je m'arrête ici sur ces deux principes que je tire du texte. Inviter en prenant de la marge, en développement de la marge pour être disponible, et inviter aussi en cherchant à rencontrer les gens dans les besoins qu'ils ressentent. Inviter. Inviter, c'est le premier verbe de la série de 5 verbes qui décrit notre projet d'Église. C'est le premier mouvement de notre projet d'Église. Ce projet d'aller chercher des personnes qui se trouvent à notre proximité, nos prochains. Et puis de les inviter, les accueillir, les baptiser, les enseigner et les envoyer pour qu'ils soient de véritables disciples de Jésus. Mais plus qu'un projet, plus qu'une formule pour voir grandir notre Église, c'est avant tout une façon de montrer l'amour pour notre prochain en l'amenant vers Jésus, celui qui sauve et qui donne un sens à notre vie. Voilà ce que nous voulons faire ensemble. Inviter notre prochain. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te prier que tu nous rendes sensibles à ceux qui sont autour de nous, et en particulier à ceux qui se perdent loin de toi. Aide-nous à prendre cette situation au sérieux et à nous sentir concernés par ton œuvre pour aller les chercher et les amener à toi. Ouvre nos yeux. Aide-nous à leur faire une place dans nos vies, à prendre du temps pour eux, mais aussi à voir leurs besoins et à les aider, que ce soit ponctuellement, de façon individuelle ou de façon plus organisée. Seigneur, fais tomber notre timidité, que nous n'hésitions pas à inviter lorsque l'occasion s'en présente, que sans gêne, sans honte, sans pression, nous soyons prêts à inviter à toi. Utilise-nous pour susciter chez nos prochains l'envie de te connaître, que ce soit te connaître en passant les portes de cette église, par tout autre moyen qui te semblera bon. Et Seigneur, prépare-nous à accueillir tous ceux qui répondront favorablement à cette invitation. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.